C'est vrai qu'il fut un temps où la prière commençait par les mots Baruch Atah Hashem. Mais pour des raisons que nous avons déjà un peu étudiées, nous avons vu qu'il était nécessaire d'introduire un verset. Ce verset est indispensable, il fait partie de la prière. On a vu dans la Gemara que la Gemara appelait ce verset Tefila Arichta, c'est-à-dire un allongement de la prière. Et ce verset est tiré du livre de Tehilim, chapitre 51, Nun Aleph en hébreu. Adonai Sefatai Tiftar, Ufi Agid Tehilatera. Mais pourquoi donc ce verset? À quoi il sert? Pourquoi est-ce qu'il a été nécessaire d'ajouter un verset? Alors, pour bien comprendre ce que ce verset veut dire, il faut voir le contexte dans lequel il apparaît. On avait dit c'est dans le livre de Tehilim. Très bien. Quel chapitre? 51. Très bien. Voilà, très bien. Donc, dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est regarder dans le livre de Tehilim, au chapitre 51, et voir de quoi il s'agit. Je prends ici, donc, dans le livre de Tehilim. L'amnatseach mizmor le David. Ça veut dire quoi, l'amnatseach? Hein? Oui, au chef des chantres. Chef des chantres. Mizmor le David, cantique pour David. Bevo elav Nathan Anavi. Quand est venu le voir Nathan le prophète, Kasherba el Batshava, quand il s'était approché de Betsabé, comme ça on dit en français. Batsheva. Quoi?
Betsabé c'est en français, Batsheva c'est en
anglais. Oui, c'est dans les Bibles en français, avant on écrivait Betsabé. B-E-T-S-A, enfin B-T-H-S-A-B-E, accent aigu E. D'accord? Pourquoi ce genre de transcription bizarre? C'est à cause de la traduction des Septante et ce que c'est devenu dans la Vulgate en latin. Et alors ça devient en français des tas de trucs un peu bizarres. Par exemple, le père d'Abraham en hébreu s'appelle
Terah.
Dans les Bibles en français, Taré. C'est une façon de dire que nous sommes des descendants d'un fils de Taré. C'est quand même pas sympathique envers l'hébreu. Bon, mais il y a des raisons à ça. Les philologues étudient ces choses-là, mais ça ne nous intéresse pas tellement. Bon. Donc, Bevo Elav Nathan Anavi, lorsque est venu auprès de lui Nathan le prophète, Kasherba el Batshava, lorsqu'il s'était approché de Batsheva. Alors, Batsheva, vous connaissez l'histoire, c'est une histoire pas très noble pour le roi David. Il est en situation, on peut dire, de péché. N'est-ce pas? Bon. Honeni Elohim kehasdecha. Prends-moi en grâce éternelle selon ta bonté, par abondance de ta miséricorde, efface mes péchés. D'accord? David se sent en situation de faute et il prie alors qu'il est dans le péché. Erev kabeseni me'avoni ou me'hatati ta'areni, abondamment lave-moi de ma transgression, purifie-moi de mon erreur. Ki feshaï anieda, car je connais mes péchés. Fehatati negdi tamid, mon erreur est face à moi toujours. Etc. etc. Alors bon, il y a ici tout un discours d'un pécheur qui fait teshuva, n'est-ce pas? Bon. Et puis il demande la chose suivante. Hashivali, je saute ici beaucoup de versets. Hashivali seson yishaecha, veruach nedivat ismecheni. Rends-moi l'exultation de ta délivrance, qu'un esprit généreux me soutienne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il demande? Il demande à retrouver le Ruach HaKodesh. Il dit, oui, le verset juste avant, j'ai sauté. Al tashlicheni milefanecha. Ne me rejette pas de devant toi. Veruach kodshecha al tikach mimeni. Ne prends pas de moi ton esprit saint. C'est-à-dire que David a perdu la faculté du Ruach HaKodesh et il demande que le Ruach HaKodesh revienne à lui. Parce que là vous suivez, n'est-ce pas? Bon. Et puis vient un verset. Adonai sefatai tiftar. Seigneur, ouvre mes lèvres ou fie Yagid Teilatecha, que ma bouche puisse raconter ta louange, ki lo tahpot zevar ve'etena, car tu ne désires pas un sacrifice que je donnerai. Ola lo tirtze, tu ne veux pas de l'holocauste. Zivhe Elohim ruach nishbara, les sacrifices de Elohim sont un esprit brisé. Lev nishbar venitke, un cœur brisé et abaissé. Elohim lo tivze, Elohim tu ne le mépriseras pas. Et tiva birtsoncha et tzion, bonifie par ta par ton apaisement Sion. Tivne chomot Yerushalayim, construis les murailles de Jérusalem. Az tarpost zivhe tzedek, c'est alors que tu voudras bien d'un sacrifice de justice, ola vechalil, des holocaustes, az ya'alu al mizbachacha parim, et alors des bœufs seront présentés sur ton autel. Alors, les deux derniers versets qui parlent de la restitution, de la reconstruction des murailles de Jérusalem, des sacrifices, ça a l'air comme un cheveu dans la soupe dans cette histoire, n'est-ce pas? Et certains ont affirmé, chez les critiques bibliques, que ce sont des versets qui ont été ajoutés ultérieurement. C'est-à-dire que le texte est un texte anti-sacrifice, puisqu'il dit « tu ne veux pas de sacrifice, tu veux simplement mon cœur brisé ». Et puis, comme ça a déplu à quelqu'un, quelqu'un a rajouté ces deux versets pour dire « non, non, il faut des sacrifices ». Ça s'appelle dire n'importe quoi. Je vais vous dire pourquoi ça s'appelle n'importe quoi. Quand il y a un texte qui présente une difficulté, alors il faut résoudre la difficulté plutôt que de dire que le texte n'existe pas. Alors c'est souvent ça que font les critiques bibliques, ils disent le texte n'existe pas, donc il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est le texte, il existe, donc il faut régler le problème. Alors, comment comprendre ça? À l'époque où le roi David a fait son erreur avec Bathsheba, c'était un temps où le temple de Shiloh avait été détruit, n'est-ce pas? Le tabernacle, le Mishkan à Shiloh avait été détruit. Il y avait encore des sacrifices, on faisait des sacrifices dans ce qu'on appelait une bama, c'est un hôtel personnel, un hôtel familial, local, mais c'est pas la même chose, c'est pas comme dans le Beth Amikdash. Or, le Beth Amikdash n'était pas encore construit, puisqu'il fallait attendre le temps du roi Salomon pour construire le Beth Amikdash. Donc, il y a un intervalle pendant lequel il n'y a pas de sacrifice, enfin pas sérieusement, et David est dans la situation de péché. Est-ce qu'il peut faire la prière, est-ce qu'il peut s'adresser à Kadosh Baruch Hu, de surplus même avoir le roi HaKodesh, alors que l'autel est vide, qu'il n'y a pas de moyen d'expier son péché? Vous suivez? Bon. Eh bien la réponse, c'est que oui, il y a une demande de David de pouvoir faire la prière, même s'il n'a pas la possibilité d'amener un sacrifice. Jusque-là, vous me suivez? Bon. Eh bien, l'époque où a été écrite la Mishnah et par la suite la Gemara, c'est une époque où le temple est détruit. N'est-ce pas? Donc on revient à une situation qui ressemble à celle de David. On a besoin de s'assurer que la prière est possible. Donc on amène ce verset qui est tiré de Tehilim pour nous dire que la prière est possible même quand il n'y a pas de sacrifice. Or c'est exactement ça que voulait dire David. Pour l'instant, je ne peux pas faire de sacrifice. Alors, au moins, ouvre-moi les lèvres. Maintenant, je voudrais... vous avez compris, n'est-ce pas? Parce qu'on va compliquer les choses maintenant. Oui, c'est bien clair? Bon. Alors maintenant, comprenons un peu ce que veut dire le verset. Le verset commence par un mot surprenant. Adonai. C'est Aleph Dalet Nun Yud. Contrairement à Yud Kevavke, Yud Kevavke, que l'on traduit en général par Hashem, c'est-à-dire on dit le nom Adnut, mais on préfère dire Hashem, le nom. Mais là, ce n'est pas Yud Kevavke, c'est Aleph Dalet Nun Yud. Ça veut dire quoi? Mon maître, n'est-ce pas? Mon maître, mon seigneur. N'est-ce pas ça que ça veut dire? Aleph Dalet Nun Yud. Sefatai Tiftar, ouvre mes lèvres. Tu ouvriras mes lèvres, brisément. Oufi, et ma bouche, Yagid Tehilatecha, racontera ta louange. Oui.
En fait, ça a été rajouté pour souligner l'importance du texte. On lui demande qu'on ne fasse pas d'erreur dans la récitation.
Non, ça veut dire que puisque nous n'avons pas de sacrifice, nous voulons qu'il soit quand même légitime de prier, malgré le péché. Parce que l'argument, par exemple, développé par nos opposants, les chrétiens, c'est que tant qu'il n'y a pas d'expiation, la prière n'est pas possible. Bah, eux, ils disent qu'ils ont une expiation à eux. Ils ont un mythe qui les aide. C'est pas, non pas que le christianisme est un mythe et que nous sommes anti ce mythe. Oui. Très bien, très bien. Non, je vois que tu arrives finalement. J'ai laissé un certain temps quand même. Pour... Ah, d'accord. Merci. Bon, donc je reviens donc à. Maintenant, j'aimerais comprendre exactement ce que ça veut dire tout ça. Lisons dans Rashi. Nous avons une grande règle, c'est quand il y a un verset qui est difficile à comprendre, nous regardons le texte de Rashi pour mieux comprendre. Alors, Rashi dit comme cela. Adonai sefatai tiftar. Rashi nous dit, mahol li. Ça veut dire quoi, mahol li? Pardonne-moi. Veyehi li pitron pe. Pour que j'ai l'autorisation d'ouvrir la bouche. Lehagid et toiteilatecha. Pour raconter ta louange. Donc, comment est-ce que Rashi a compris le nom Aleph Dalet Nun Yud? Maholli, pardonne-moi. Ah bon? Mais tout à l'heure, j'ai demandé ce que ça voulait dire. On m'a dit très justement, ça veut dire mon maître, mon seigneur. Et Rashi comprend, ça veut dire pardonne-moi. C'est pas ça que ça veut dire. Pardonne-moi, on dit en hébreu, Maholli. On dit pas Adonai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez compris ma question ou pas?
Je vais vous donner la réponse.
C'est quoi le péché? Le péché, c'est une révolte. Donc, dès que j'accepte d'être le serviteur, dès que je reconnais que j'ai un maître, je suis évacué du péché. Je suis en dehors de la faute. Donc, il n'y a plus de péché. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut faire l'expiation, il faut réparer le péché, etc. Mais, existentiellement parlant, dans ma personne, je suis en dehors du péché, dès que j'ai accepté que j'ai un maître. Donc quand j'ai dit Adonai, c'est-à-dire j'ai mon Seigneur, j'ai un maître, donc ipso facto, je ne suis plus dans le péché. Donc je peux être pardonné, maholli. C'est comme ça que Rashi a compris le nom Aleph Dalet Nun Yod. Oui, quoi encore?
Donc c'est-à-dire que si, à quoi ça sert de faire cette place, il n'y a plus de péché?
Il n'y a plus de péché dès que j'ai dit ce mot-là.
Qu'est-ce qu'on expie vraiment?
Ah, l'expiation, c'est pour réparer. Alors, il y a une différence, on avait étudié dans le mois de Elul. Tu étais là pendant Elul?
Oui.
On avait étudié la différence qu'il y a entre la Teshuvah et la Kapara. La Teshuvah et la Kapara viennent réparer deux choses différentes que fait le péché. Quand je pêche, moi qui étais tzaddik, je suis devenu, qu'à Dieu nous plaise, racha, méchant. J'étais juste, et je suis devenu méchant, ce qui est très grave. À part ça, imaginons par exemple que le péché que j'ai fait, c'était un assassinat. La personne que j'ai assassinée, avant le péché, était vivante. Maintenant, la personne est morte. Maintenant, je fais teshuvah. C'est-à-dire quand je fais teshuvah, je regrette. Je dis, ah, j'aurais pas dû le tuer. C'est vrai, la Torah dit, tu ne tueras point, j'aurais pas dû le tuer. C'est pas bien. Et, dans ce cas-là, de méchant que j'étais, je redeviens juste. Je suis passé donc de l'état de rachat au tzaddik. Et le mort, il reste mort. Donc il y a un déséquilibre entre ce qui se passe dans mon intériorité, je suis redevenu tzaddik, et l'effet que ça a fait dans la réalité. Il faut réparer ça aussi. Ça s'appelle la kapara, l'expiation. D'accord? C'est-à-dire, la teshuvah concerne ma volonté et la kapara concerne les faits. Est-ce clair? Très bien. Oui, quoi?
Mais ça paraît trop simple. Juste le fait de dire...
De dire, c'est-à-dire... Base,
oui, ben... C'est très... Toutes les bêtises qu'on veut toute la journée, manger du porc et donner le
vin. Je ne sais pas si c'est tellement bon, enfin oui. C'est plein de cholestérol, le porc. Il y a beaucoup d'autres bêtises qu'on peut faire, par manger du lapin. Oui. Le canard, c'est cachère. Ben oui. Mais ça dépend. Si le canard peut ne pas être cachère si tu l'as étranglé, par exemple. Au lieu de l'abattre.
Ouais, manger du canard étranglé.
Voilà, par exemple. Voilà.
Et après, on va faire mitra. On dit ça et c'est bon, on est expié.
Oui, bien sûr. Non, on n'est pas expié, on est pardonné.
Et après, juste après mitra, on retourne manger du porc, du canard.
Alors à nouveau, oui, bien sûr. Mais attention, ça veut dire quoi? On a dit le mot. Quand je dis le mot, c'est-à-dire que j'accepte ce qu'il veut dire. C'est pas que je suis un menteur. Si je dis simplement il y a un son acoustique, n'est-ce pas? Je dis les quatre syllabes du mot Adonai. Ça ne sert à rien. Il faut avoir l'intention que ce mot représente. C'est bien clair? Alors, quand j'ai cette intention, c'est que j'ai fait teshuva. Donc, c'est très simple. Il faut faire teshuva. Et la teshuva est acceptée. C'est-à-dire qu'avant, j'étais très malheureux d'être pécheur, et depuis que je me suis repenti, on me dit teshuva. Ah ben.
Tu es chou.
Tu es chou. Un chou. Un petit
quand
chou.
Dire, quand j'ai un petit bébé, oui. J'ai un bébé, il est trop chou.
Va, ça va. C'est vrai, mais c'est comme celui qui a voulu se suicider, qui n'a pas réussi, qui va voir le rabbin. Il dit, monsieur le rabbin, je me suis pendu. Alors il dit, repends-toi. Bon, c'est ça. Ça, tu as compris. Voilà. Il fallait quand même une de remplacement, c'était important. Bon, ah, donc le schéma de doute, le nom de Dieu qui dit « Mon Seigneur », ça veut dire que je suis évacué du péché. C'est très important parce que il y a dans la conscience des goïms une terreur de ce qu'on appelle le péché originel. Il y a un péché originel, ils se disent « Depuis que le premier homme a péché, nous sommes tous des coupables ». C'est totalement faux. À partir du moment où j'accepte ce qu'on appelle le « Ol Malchut Shamaim », le joug du ciel, je suis en dehors du péché. Et donc, je ne suis plus concerné par la faute de Adam Harishon. Vous avez compris? Très important. Maintenant, c'est quoi? C'est Fatay Tiftar ou Fi? Alors, donc, d'après Rashi, Veyili Pitron Pe, c'est comme si Rashi ponctuait le verset, c'est Fatay Tiftar ou Fi. Tu ouvriras ma bouche, tu ouvriras mes lèvres pour avoir le droit d'ouvrir la bouche. Yagid Teilatera, pour dire, pour raconter ta louange. Alors, c'est quoi ta louange? Teilatera. Ça vient de quel verbe, ça, Teilatera? Hein, quoi, tête? Hein, Teila. D'abord, comment vous écrivez ça? Comment vous écrivez ça? Vous pouvez m'appeler, s'il vous plaît? Taf, He, Lamed, Tav, Kaf, n'est-ce pas? Tav, He, Lamed, Tav, Kaf, Sophit, Kaf, final, n'est-ce pas? Teilatera. Il n'y a pas de yud. Il y a un dagesh dans le lamed, à la place. D'accord? Tehi latera, tav, he, lamed, tav, kaf. Le cha, qui est à la fin de tehi latera, c'est un suffixe, n'est-ce pas? C'est quoi le mot pour lui-même? Tehi la, n'est-ce pas? Tehi la, c'est un mot, c'est un nom. Un nom, mais qui vient d'un verbe. Ça vient d'un verbe. Quel est le verbe qui est à la base du mot? Tehila. En français, louange, ça vient de
louer.
D'accord? Donc, Tehila, ça vient d'un verbe qui est
Hallel.
Très bien. Ça vient du verbe Hallel. Les Hallel. Mais dans ce cas-là, non, c'est très bien, très très bien. Remarquable. Tu es dans l'Ulpan? Tu as l'Ulpan? Oui, d'accord. Bon, en tout cas, ça vient du verbe Hallel. Dans ce cas-là, on devrait dire, ou fi yagid, halelcha. Ma bouche va raconter ton halel, puisque halel veut dire louer. Ça veut dire également une louange. Donc, d'où vient le mot tehillah? Le mot tehillah, vous voyez qu'il y a un rajout, un tav. On ne sait pas très bien ce qu'il vient faire ici, ce tav. Et puis, il y a un lamed qui a disparu. Bien qu'il est remplacé par un dagesh. Vous savez que quand il y a un dagesh dans une lettre en hébreu, c'est souvent parce qu'il y a une lettre qui a disparu, qu'on a laissé tomber. Mais il semblerait donc qu'il y a une différence entre la louange Tehila et la louange Hallel. C'est pas exactement la même chose. Le mot Hallel, vous le voyez dans un terme qu'on retrouve souvent dans les Tehilim, c'est le mot Alléluia. Vous connaissez ce mot-là? Alléluia? Bon. Le Alléluia apparaît dans le livre de Tehilim. Mais dans quel chapitre de Tehilim apparaît le mot Alléluia? Vers la fin. Quelle est la première fois où ça apparaît dans Tehilim? Dans? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? 137? Non. 105? Tu te rapproches. Sans, non, tu t'es déjà trop éloigné. 110. Non.
108.
104. Juste. Très très bien. C'est dans le chapitre 104. Combien de chapitres il y a dans Tehilim ? 150. Vous voyez donc que c'est vers la fin. Dans le dernier tiers apparaît le Alléluia. Est-ce que c'est un hasard ? Alors la Gemara dans Brachot nous dit non, non, pas du tout, c'est pas du tout un hasard. David a dit 103 louanges, mais avec Shalosh Tehilot, David a dit 103 Tehilot. Vous voyez que le mot revient ici. Et n'a pas dit Alléluia. Jusqu'à ce qu'il voit la chute des méchants. C'est-à-dire quoi? Il a vu la chute des méchants. C'est-à-dire qu'il a vu dans son Esprit Saint, dans son Roi HaKodesh, la possibilité d'un monde sans Rechaïm, sans méchants. Et alors il a dit Alléluia. C'est le verset dans Tehilim 104. Yitamu hataim min haaretz, disparaîtront les pécheurs de la terre. Urshaim od enam, il n'y aura plus de méchants. Barichi nafshi et Hashem, Alléluia. Que mon âme loue, bénisse l'Éternel, Alléluia. Donc vous voyez que le Alléluia apparaît, le Hallel donc, à un moment de l'histoire où le mal n'est plus. C'est pas notre temps. Mais qu'est-ce qu'on peut dire tant qu'on ne dit pas de Hallel? À la place on dit la Tehila. Vous voyez donc que la Tehila, c'est une louange qui est un ersatz de louange. C'est comme une louange. C'est une approximation. C'est quelque chose qui se rapproche du Hallel, mais ce n'est pas vraiment le Hallel. Oui. Les chrétiens le disent bien tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le mal a disparu. Ils pensent qu'il n'y a plus de péché originel pour ceux qui ont la foi en la passion. Oui, oui, voilà. Ils disent c'est comme ça que ça fait l'expiation. Ils ont tout un truc. Ils ont de la magie. Ça s'appelle du magique. C'est-à-dire, il y a le péché, oui, mais il y a un truc magique qui fait que ça a disparu. Ouais, c'est ce que je crois, disent-ils.
Une croyance.
Ils disent que c'est ça qu'ils croient. Ouais, bon, d'accord, on peut continuer, la conclusion, enfin, j'espère. En tout cas, bon. Bon, en tout cas, donc. Je reprends ici pour la Tehila. Donc la Tehila est une approximation du Hallel. Le Hallel ne peut être récité que dans un monde parfait. Or, nous avons, pendant l'année, nous avons des journées où nous récitons le Hallel. N'est-ce pas? Il y a des cas, nous récitons le Hallel. Pendant les fêtes, on dit le Hallel. À Hanouka, on dit le Hallel. À Yom Ha'atzmaut, on dit le Hallel. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on dit le Hallel? Lorsqu'il y a un rayonnement du monde idéal. C'est-à-dire, quand, pour un moment, notre monde s'est révélé être digne de louange. Alors on dit le Hallel. C'est pour ça que la Gemara dit dans le traité de Shabbat que celui qui récite le Hallel un jour où il ne faut pas dire le Hallel, c'est un blasphémateur. Parce qu'il dit d'Akadosh Baruch Hu que son monde est parfait, alors que c'est pas vrai. C'est comme si par exemple une cuisinière a fait un plat avarié et on lui dit c'est délicieux madame. Alors on s'use d'elle, quoi. On se moque. D'accord? Donc il ne faut pas dire à Kadosh Baruch Hu le Hallel quand c'est pas vrai. Mais il y a des moments dans l'histoire où le Hallel doit être récité. Alors on le récite.
Et vaut mieux, bon, Yom
HaTzmaout, il faut dire le Hallel.
Vaut mieux ne pas le faire pour éviter de blesser la mère et le faire quand Dieu nous demandera vraiment.
Ne pas dire le Hallel à Yom HaTzmaout, c'est de l'hérésie. Parce que il y a aussi quelque chose de plus grave que de dire le Hallel quand il ne faut pas, c'est l'ingratitude. C'est-à-dire la faute du premier homme a été la faute d'ingratitude, quand il a dit « la femme que tu m'as donnée m'a donné à manger du fruit ». Donc tous les péchés du monde sont des dérivés de l'ingratitude du premier homme. Si quand Akadosh Baruch Hu t'amène la Géoula, tu ne fais pas le Hallel, alors tu reprends le péché d'Adam Harishon, alors que c'était l'occasion de le réparer. C'est clair? Bon. Oui. Le Hallel, c'est pas les Tehillim, justement. Le Hallel, c'est plus que les Tehillim. C'est là où on dit le Alléluia, justement. Et donc, j'aimerais comprendre ce que veut dire le mot Hallel et que veut dire le mot Tehila. Dans le Tehila, vous avez un Tav, n'est-ce pas? Vous connaissez certainement en grammaire hébraïque ce que c'est que le Hit Pael. C'est, c'est le pronominal, n'est-ce pas? Le pronominal, par exemple, Ani mit labesh, je m'habille, n'est-ce pas? C'est-à-dire, j'habille quelqu'un, Ani malbish, je m'habille, mit labesh, c'est-à-dire le tav est là pour faire le hitpael, c'est-à-dire le pronominal. Mais il y a une autre signification du hitpael, un peu moins connue, c'est faire semblant. Par exemple, Ani mit gadel, ça ne veut pas dire je me grandis, ça veut dire je fais comme si j'étais grand. N'est-ce pas? Mit halel en hébreu, ça veut dire s'attribuer une louange qu'on ne mérite pas. Je fais comme si je méritais cette louange. Mit halel. Donc le tav de Tehila est à rapprocher du halel, de mit halel, c'est-à-dire c'est faire comme si je pouvais louer, mais c'est un semblant de louange. C'est pas vraiment la louange. Ça, c'est pas vraiment le hallel. Maintenant, j'aimerais comprendre que veut dire le mot hallel précisément. On a traduit ça en français par louange, mais c'est pas très clair ce que veut dire une louange. Je vais vous dire exactement ce que ça veut dire en farouche. En hébreu. Le mot « lehallel » et peut-être que le mot « louange » en français aussi veut dire la même chose, ça veut dire précisément « définir ».« Lehallel » ça veut dire « définir ». Je vais vous donner une preuve de ça. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle en français l'article défini, le « lalé », n'est-ce pas? Le « lalé », ce sont des articles définis. En hébreu, il n'y a pas trois articles définis, il n'y en a qu'un seul. Hein? Le « heaïdia ». Est-ce qu'on peut, tu peux m'épeler, s'il te plaît, le Heaïdia? Comment est-ce qu'on épelle cet article? Ben, hé, et puis? Non, il n'y a pas de dalette. Est-ce que tu peux m'épeler l'article défini en hébreu? C'est quoi? Le hé, non, c'est pas exactement. C'est le hé avec un patar ou un kamas, parfois un ségol, et un dagesh dans la lettre d'après. Oui, parfaitement. Par exemple, si je dis « sefer », ça veut dire un livre. « Ha sefer », le livre, et je mets un dagesh dans le « samer ». Un dagesh chazak. Vous savez qu'il y a deux sortes de dagesh en hébreu. Il y a le dagesh kal et le dagesh chazak. Le dagesh chazak, il vient en remplacement d'une lettre tombée. N'est-ce pas? Par exemple, comment? Non, justement pas. Là-bas, tu as pas de dagesh dans l'atar. Et par exemple, yitten, il donnera. N'est-ce pas? Yitten, il donnera. C'est quoi la racine de yitten? Natan. Nun tav nun. Alors, où est tombé le nun? On devrait dire yin ten. N'est-ce pas? Il donnera. Selon la règle grammaticale, on devrait dire yin ten. On ne dit pas yin ten, on dit yitten. Qu'est-ce qu'on fait pour remplacer le nun qu'on a laissé tomber? On met un dagesh dans le tav. N'est-ce pas? Un dagesh chazak. Alors, dans le Heaïdia, en hébreu, on met un he avec un patar en dessous et un dagesh dans la lettre d'après. Ce dagesh vient remplacer une lettre tombée. Laquelle? Quelle est la lettre que le dagesh chazak dans le Heaïdia vient remplacer? Vous avez 22 réponses possibles, puisqu'il y a 22 lettres en hébreu. Oui? Hein? Le lamed. Oui. Par exemple, dans le livre de Bereshit, lorsque les frères de Yosef le voient arriver, ils disent « Hine ba'al halomot, voici le rêveur, halazé, ba, celui-là. » Ils ne disent pas « hazé », ils disent « halazé ». Alors, c'est employé en forme de mépris. Celui-là, là. Ce type-là. D'accord? Voilà. Mais vous voyez que ça prouve quand même qu'il y avait dans l'hébreu originel, il y avait un lamed après le Heaïdia, que ce lamed a été remplacé par un dagesh. D'ailleurs, ça ressemble à l'article défini en arabe. C'est quoi l'article défini en arabe? Al. 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 Maintenant, vous savez combien de lettres il y a dans l'alphabet arabe? 28. Il y a 28 lettres. 14 d'entre elles, quand elles sont précédées du « al », conservent le « lamed », et 14 autres suppriment le lamed et le remplacent par un dagesh. Par exemple, la maison en arabe se dit al-bayt. En arabe littéraire, al-bayt. Et par contre, le soleil,
al-shams.
On ne prononce pas le lamed. Oui, Madel Shams, mais on... Non, Majdal, le Lamed, ça vient du mot Majdal, ça n'a rien à voir avec le... Donc, c'est-à-dire que le Lamed est supprimé dans certaines lettres. Il est écrit, les Arabes écrivent le Lamed, mais ne le prononcent pas, et mettent à la place un Dagesh, dans la prononciation Ash-Shams. Donc, vous voyez bien que ça, c'est un phénomène qu'on retrouve également en hébreu et en arabe. D'ailleurs, le Al, arabe, est devenu l'article... défini en français le l'aller, ça vient de l'arabe à l'origine, n'est-ce pas? Et donc je reprends ici le verbe d'où vient l'article défini en hébreu, c'est le verbe hal, hal qui se dédouble en halal, qui donne le verbe halel. Donc les halel, ça veut dire en vérité définir, donner une définition exacte. Or, je ne peux pas définir ma relation à la divinité tant qu'il y a du mal dans le monde. Vous comprenez? Parce que s'il y a le mal, je dois faire abstraction du mal. Je ne peux pas inclure le mal dans ma connaissance de Dieu. C'est interdit. Ça veut dire qu'il faudrait faire des péchés pour connaître Dieu. C'est impossible. Mais quand il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus d'empêchement. Dans ce cas-là, je pourrais faire le Hallel. Je pourrais définir véritablement. Pour l'instant, je donne une approximation. Ça s'appelle comment en hébreu? L'approximation du Hallel? Teïla. Très bien. Voilà. Vous avez donc compris. Donc c'est ça qu'il dit le roi David. Je suis une situation dans laquelle le mal n'est pas entièrement expié, mais je veux quand même pouvoir faire la prière. Ufi yagid teïla terra. Vous avez compris? Bon. C'est ça qui explique donc la phrase qui ouvre le Shmoneh Esrei. Oui? Une question? Non. Bon. Alors maintenant, on va continuer. De là, on passe à la première des bénédictions. La première bénédiction. Maintenant, les trois premières bénédictions du Shmoneh Esrei semblent ne pas faire partie de la prière. C'est quoi une prière? C'est demander quelque chose. Dans les trois premières bénédictions, on ne demande rien. C'est des louanges. Dans ce cas-là, ça ne fait pas partie de la prière. Oui? C'est une louange? Non, on ne demande pas. Non? Non, non. Dans Mechaye Ametiv, on loue à Kadosh Baruch Hu d'être celui qui donne la résurrection. On ne lui demande pas la résurrection. Non, ce n'est pas la même chose. Si je dis de quelqu'un... c'est un grand médecin. Est-ce que j'ai dit guéris-moi? Pas la même chose.
Ça
sous-entend? Non, pas du tout.
Sinon on est malade et on est un grand médecin.
Ah, le sous-entendu c'est de l'implicite. Moi je cherche de l'explicite. En fait, la Guémara explique, parce que ça ne se fait pas. C'est pas poli de demander si on n'a pas loué. Bizarre, hein? Une question de politesse. Je vais demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose, il faudrait quand même que je lui dise un peu de louange quand même. C'est de la lèche.
C'est pas si je voulais pas louer. Mais non, c'est pas pour Dieu. Pour Dieu, mais c'est pour nous, c'est pour nous amener de l'esprit qu'on demande.
C'est pour savoir qu'est-ce qu'on demande, à qui on demande. C'est-à-dire, il y a la vérité, c'est la louange ici vient définir celui auquel la prière est adressée. C'est-à-dire, je demande à Kadosh Baruch Hu. On a dit tout à l'heure Gal Israël. J'ai dit, c'est celui qui a sauvé Israël. Mais qui il est celui qui a sauvé Israël? Alors, j'ai besoin de savoir. Donc, la première bénédiction vient répondre à une question importante. Qui?
C'est ça.
Et la deuxième bénédiction vient répondre à la question quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut me donner? Et la troisième bénédiction vient répondre à la question pourquoi? Donc, qui, quoi, parce qu'il est Kadosh. C'est-à-dire, qui, quoi et pourquoi. Et alors, je peux demander. C'est là que viennent les demandes. D'accord?
On définit Dieu.
Exactement. Maintenant, dans les trois dernières bénédictions, à nouveau, il n'y a pas de demande, il y a des remerciements. Parce qu'il n'est pas poli de demander sans remercier. À nouveau, c'est de la politesse? Non. Ça vient transformer ma demande en gratitude. Et la gratitude, c'est la seule chose que moi, créature, je peux faire que Dieu ne peut pas faire à ma place. Donc, c'est indispensable qu'il y ait également la gratitude. Donc, la première bénédiction vient définir celui auquel la prière est adressée. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pour se définir? Pas besoin de me définir. Quoi? D'Abraham, Mitzraki et Jacob. Mais c'est pas ça qu'on dit. Je ne dis pas dans la prière, je suis fils d'Abraham. C'est ça que je dis dans la prière. C'est supposé être déjà connu. C'est ce que j'ai dit peut-être le matin quand j'ai dit Modéani, quand j'ai défini mon moi. Mais ça c'est déjà fait depuis longtemps. C'était au réveil. Maintenant je suis dans la prière. C'est pas moi le sujet. Le sujet c'est lui. D'accord? Alors ça commence par les mots. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois, quand on a essayé de demander comment commencer la prière. Tu as dit tout à l'heure, non? Non, ça d'accord, ah non, c'est très non, bien. C'est très bien. Baruch Atah Hashem. Voilà. Ça, c'est une ouverture très importante. Baruch Atah Hashem. Alors, en français, on traduit en général « Béni sois-tu éternel ». Il n'y a rien de plus absurde que cette traduction. Parce que... Comment ? Est-ce qu'il peut recevoir de moi, qui ne suis qu'une pauvre créature, est-ce qu'il peut recevoir quelque chose de lui qui est la perfection totale? C'est absurde. N'est-ce pas? Donc c'est pas ça que ça peut vouloir dire, Baruch Atah. Donc tu es source de bénédiction. Source de bénédiction, c'est le mot Baruch. C'est-à-dire que même en hébreu, par exemple, quand on dit d'une source qu'elle est abondante, on dit Ma'ayan Baruch, une source abondante. Ce n'est pas que la source est bénie, c'est la source qui est bénissante. Donc, Baruch signifie source de bénédiction. Effectivement, ça correspond tout à fait à la prière. Dans la prière, je m'ouvre à une bénédiction qui me vient d'en haut. Donc, contrairement au sentiment que la prière développe, qui est que c'est moi qui m'adresse à Dieu, en vérité, c'est Dieu qui s'adresse à moi. Comme il s'adresse à moi, je dois m'ouvrir. Pour m'ouvrir à lui, je dois ouvrir le robinet. L'ouverture du robinet se dit Baruch.
C'est plus clair maintenant?
Ouais. Baruch. Mais que veut dire Ata? Toi. Est-ce qu'on peut avoir une relation de toi envers Dieu? Il faut. Mais est-ce que c'est possible? Avant de savoir c'est vrai qu'il le faut, mais est-ce que c'est possible? C'est impossible. Et pourtant, on le fait. Et il y avait, je vais vous dire quelque chose. Il y avait un philosophe qu'on appelait Emmanuel Kant. Vous entendez parler de lui? Bon. Un de ses trucs, à Kant, c'est l'antinomie. Vous savez ce que c'est une antinomie? Une antinomie, d'après Kant. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais donner une définition? D'après Emmanuel Kant, une antinomie, c'est un problème insoluble. C'est un problème qui, par définition, n'a pas de solution logique. Il y a, d'après Kant, quatre antinomies. Une des quatre antinomies, c'est de savoir si l'on peut prouver que le monde a été créé, qu'il a un commencement, ou bien que le monde n'a pas de commencement, qu'il est éternel. Alors, d'après Kant, c'est un problème que la philosophie n'arrivera jamais à résoudre. On ne peut pas, par une spéculation philosophique, prouver que le monde a un commencement ou qu'il n'en a pas. Impossible. Maintenant, le problème, si ce que Kant dit est vrai, ça pose un problème à Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'il peut créer le monde si Kant lui dit que c'est une antinomie? C'est pas Kant qui décide. Effectivement, mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il agit avec politesse. Il ne veut pas faire de la peine aux gens. Alors, ce qu'il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi j'ai des raisons de créer le monde qui ne sont pas des raisons philosophiques. Je veux créer le monde pour des raisons morales. Mais je sais que dans la critique de la raison pure, Emmanuel Kant dit que c'est un problème. Alors ce que je vais faire, pour l'instant, je vais le créer. Et puis après viendront des philosophes faire des doctorats là-dessus pour régler le problème. C'est-à-dire qu'il y a une primauté du moral sur le métaphysique. Le métaphysique pose des questions. Est-ce que la création est possible? Est-ce qu'elle n'est pas possible? À savoir, antinomie. Mais Akadosh Baruch Hu dit, oui, mais moi j'ai des raisons morales, je m'en fiche pas mal de vos antinomies, donc je crée. D'accord ? De toute façon, un peu, disons, un peu simpliste de régler le problème. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Ben, parce que le problème du Atta, c'est vrai que philosophiquement, dire à Akadosh Baruch Hu, toi, c'est difficile à admettre. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut nous rencontrer dans le dialogue. Donc c'est lui qui suscite le mot Atta. Mais d'où ça vient le mot Atta ? Quelle est la racine grammaticale du mot Atta ? Est-ce qu'il y a un verbe pour Atta ? Oui, quel est le verbe de Atta ? Par exemple, pour Baruch, le verbe c'est Berer, Bet Reshkaf. Mais pour Atta, c'est quoi le verbe ? C'est un sujet. Donc tu dis qu'il n'y a pas de verbe. Moi je pense qu'il y en a un. Le verbe Atta, en hébreu, Aleph Tav He, veut dire venir, arriver. Alors en araméen, ça s'écrit Aleph Tav Aleph. Et en hébreu, ça s'écrit Aleph Tav He. C'est un mot, c'est un verbe qui apparaît rarement dans le Tanakh, mais qui apparaît quand même. Par exemple, dans la paracha de Vezot HaBeracha, la dernière paracha de la Torah, il est dit Hashem mi Sinai ba, Dieu est venu du Sinai. Et Vezarach mi Seir lamo, il a brillé depuis le mont de Seir pour eux. Hofia mehar Paran, il est apparu de la montagne de Paran. Ve'ata mi Rivevot Kodesh, il est arrivé depuis les myriades d'êtres saints. Il est arrivé. Ve'ata, écrit, il est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a une forme aramophile dans la Torah. C'est-à-dire, vous avez parfois des mots en hébreu, en hébreu, disons, lyrique, en hébreu poétique, il y a des formes proches de l'araméen. Donc le mot ata, aleph tavé, en hébreu biblique, peut signifier arriver. Donc, maintenant, si de là, de ce mot ata, est formé le pronom ata, toi, n'est-ce pas ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je te rencontre, toi, ça veut dire que c'est toi qui viens à moi. C'est-à-dire, dans le mot ata en hébreu, contrairement à ce que le français peut vouloir dire dans le mot tu, c'est pas moi qui viens à toi, c'est toi qui viens à moi. Et c'est ça qui me permet de te dire ata. Donc, Baruch ata, ça veut dire source de bénédiction qui vient à moi. Hein ? Non, aller vers lui, c'est impossible. C'est comme si j'essayais, par exemple, de tirer une flèche en direction de la galaxie. Zéro résultat. C'est-à-dire, la tentation et la tentative qu'a l'homme d'englober le divin dans sa pensée, c'est une sorte d'orgueil philosophique. Mais l'infini, lui, il peut venir à moi. Ça, il n'a pas ses problèmes. Lui, ça ne le dérange pas de venir à moi. C'est moi qui ne peux pas arriver à lui. C'est pour ça qu'en hébreu, il n'y a pas de mystique. Il y a une doctrine secrète de la Torah. Elle s'appelle comment ? Kabbalah. Ça veut dire quoi, Kabbalah ? Recevoir. Je suis en situation de recevoir. C'est pas moi qui viens. Je suis en situation de recevoir. La Kabbalah. N'est-ce pas ? C'est exactement ce qui se passe dans la prière. Baruch Ata. C'est source de bénédiction qui vient. Ça va jusqu'à présent ? Bon. Hachem. Baruch Ata, Hachem. Ça veut dire quoi, ça, Hachem ? Là-bas, c'est le mot Yud Kevav, qui n'est pas Aleph Dalet Nun Yud. Ça veut dire quoi ? Hein ? L'éternel. Ça, effectivement, on traduit souvent Yud Kevav par éternel, contrairement à Adonai qu'on traduit par Seigneur. Dans les Bibles catholiques, on préfère le Seigneur. Dans les Bibles protestantes, on préfère l'éternel. Mais nous ne sommes ni catholiques ni protestants. Vous savez qu'une fois, il y a un juif qui s'est fait arrêter en Irlande par des terroristes. Et on dit, est-ce que tu es catholique ou protestant ? Il dit, oui, mais je suis juif. Mais est-ce que tu es juif catholique ou juif protestant ? N'est-ce pas ? En tout cas, nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Il faut comprendre ce que veut dire. On traduit souvent Yud Kevav Keh par l'éternel. L'éternel, c'est parce qu'on comprend Yud Kevav Keh comme étant Haya, Hove, Veyiye. C'est une conjugaison de était, il est, il sera. N'est-ce pas ? Mais c'est une dracha, c'est une interprétation seconde, dérivée. Le mot Yud Kevavke veut dire celui qui donne en permanence l'être. Donner l'être, en hébreu, se dit Mehavé. Si vous mettez ça avec un Yud, ça vous donne le Yud, soit du futur, soit du permanent. Celui qui donne l'être en permanence. Ça ressemble au mot éternel, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donner l'être est un acte de miséricorde. On appelle Rahamim en hébreu. Miséricorde, Rahamim, à rapprocher de la racine Rechem. Rechem qui veut dire une matrice. C'est-à-dire donner, faire de la place en soi pour donner de l'être à un autre. Or justement, la prière, elle vient pour demander quoi? Un acte de miséricorde. Donc, Baruch Ata Hashem, ça veut dire source de bénédiction venant à moi sous forme de miséricorde. Tant que je ne me suis pas ouvert à cette compréhension, je ne peux pas prier. Mais maintenant, je peux prier. Baruch Ata Hashem, source de bénédiction venant sous forme de miséricorde. Jusque-là, c'est clair? Quoi? Quel est le mot après, Baruch Ata Hashem? Eloheinu. Eloheinu. C'est le contraire de Hashem, ça. Elohim, c'est au contraire, c'est la rigueur, c'est pas la miséricorde. Avant ma prière, il est Eloheinu. Mais quand je le prie, il devient Hashem. C'est-à-dire, à quoi je m'adresse? Avant même la prière, il était Elohim. Maintenant, j'ai prié, il devient Hashem. Oui?
En fait, c'est pour rappeler qu'il peut être tout, il peut être miséricorde, il peut sanctionner.
C'est vrai qu'il est tout, mais le problème, c'est de savoir sous quel angle je m'adresse à lui, ou il s'adresse à moi précisément dans la prière. Il s'adresse en tant que Hachem. C'est pour ça que vous voyez que dans toutes les bénédictions, on dit Baruch Ata Hachem. C'est en tant que miséricorde qu'il nous donne ce qu'il nous donne. Non, la miséricorde, c'est pas de la pitié. C'est pas du tout la même chose. La miséricorde, c'est la conjugaison de la bonté et de la rigueur à la fois. Ça veut dire quoi? Je vais m'expliquer. Si quelqu'un, par exemple, transgresse une parole d'Akadosh Baruch Hu, il fait une avera, qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite la mort. N'est-ce pas? C'est vrai. Comment? Tu es une créature, tu as transgressé la parole de ton créateur, tu n'as pas le droit de vivre. Quick! Comme on dit chez nous. Et pourtant, il y a un moment de miséricorde. Akadosh Baruch Hu dit non, non, ne le tuez pas, on va lui laisser le temps. N'est-ce pas? C'est-à-dire, la miséricorde qui nous est accordée, c'est ce qu'on appelle en français le temps. On nous laisse un temps, un délai. N'est-ce pas? Eh bien, c'est ça la rachamim. Tandis que la pitié, c'est autre chose. La pitié, c'est tu ne le mérites pas, mais tu me fais de la peine. Alors je te le laisse, c'est la pitié. Rachamim, c'est pas de la pitié.
Non, mais c'est un peu ça.
Non, c'est pas la même chose du tout. C'est laisser le temps. Parce que Akadosh Baruch Hu sait.
Tu vas mourir, donc je te laisse le temps.
Je te laisse le temps parce que tu vas mériter.
Mais là, ça peut être.
Je te laisse le.
J'espère que tu vas mériter après.
Non, mais ça veut dire que tu en as la capacité. C'est-à-dire, c'est un acte de confiance, la miséricorde. C'est-à-dire, je ne suis pas encore méritant, mais je le serai. Donc il y a la miséricorde. N'est-ce pas? C'est pas exactement la même chose. Oui?
C'est-à-dire que tous les rechaïms sont en vie, ça veut dire qu'ils sont capables d'en poser une vertu
là? Exactement. Oui. Ah bon. Donc, je reviens donc ici, Baruch Ata Hashem, Eloheinu. Traduction toute simple en français, notre Dieu. Qui c'est ce nous? Eloheinu.
Le nôtre.
Le nôtre. Qui c'est ça, le nous qui on...
Le
peuple juif. Ah bon? Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Le peuple juif, d'accord. Mais quel peuple juif? Quoi? Tu voulais? Tous les peuples? Mais est-ce que le nous veut dire créateur? C'est pas créateur que ça veut dire Eloheinu.
Nous, on rappelle que nous sommes des créatures,
Ah, une seconde. Alors, si c'est vrai ce que tu dis là, que le nous, c'est toutes les créatures, alors à quoi sert par la suite Elohé a voté nous, et le Dieu de nos ancêtres. Mais non, si c'est le général il inclut tout. Je pense au contraire que Elohim c'est exclusif. Je comprends. Mais d'un autre côté, je dis pas qu'on ne peut pas lire ça comme ça, mais comment par exemple comprendre le verset Shema Israël Hashem Elohenu? Rachid dit quelque chose de très surprenant. Vous savez que ce verset, Shema Israël Hashem Elohenu Hashem Echad, on dit que c'est la proclamation de la foi monothéiste. N'est-ce pas? Les Juifs croient en un seul Dieu, et donc ils disent Shema Israël Hashem Elohenu Hashem Echad. Oui, mais le problème c'est que le mot Elohenu, il arrive après le mot Israël. Shema Israël Hashem Elohenu. Et Rachid dit quelque chose de terrible. Il dit Hashem Shu Elohenu Velo Elohe Agoim. Hashem qui est notre Dieu et pas le Dieu des Goïm. Vous avez remarqué que dans le verset monothéiste par excellence, vient le grand interprète de la tradition du judaïsme, il dit, c'est pas un verset monothéiste. Terrible. Hachem Elohenu, l'Éternel qui est notre Dieu et pas le Dieu des Goïm. Et Rachid rajoute, une seconde, mais d'abord c'est absolument incroyable un truc pareil. Et Rachid rajoute, Hachem Echad sera un jour le Dieu de tout le monde. Ça veut dire que c'est une dynamique. Pour Rachid, le schéma Israël n'est pas une profession de foi, mais le départ du dynamique. Pour l'instant, il n'est pas le Dieu des Goïm, puisqu'il n'est pas reconnu par eux, mais il sera reconnu un jour par eux. Alors, il est déjà à Hashem Echad, ou il sera à Hashem Echad. On peut discuter. Comment?
Un jour,
oui.
Comment
on... Une nuit, tu préfères?
Non, mais je comprends pas. Comment c'est le Dieu? Comment il peut être Dieu? Il est Dieu de tout le monde.
Alors justement,
c'est eux qui ne veulent pas, c'est tout.
Alors ça se discute. C'est-à-dire, est-ce que tant qu'il n'est pas reconnu, alors il s'occupe d'eux ou pas? Ou est-ce que ça passe par des intermédiaires?
Des malachim.
Des malachim, par exemple. Moshe, dans son discours avant sa mort, il dit au peuple, Hashem Elohechem, l'Éternel, votre Dieu, ou Elohe Elohim, il est le Dieu des dieux. Il est le Dieu des dieux. Hashem Elohechem ou Elohe Elohim. Alors, comment? Quoi, c'est pas d'accord? C'est un verset dans la Torah, qu'est-ce que je fais? C'est terrible. Oui, mais c'est terrible pour une conscience moderne, parce que nous vivons dans un monde philosophique. Tandis que, quand je dis « c'est mon Dieu », ça veut dire « c'est celui qui se révèle à moi ». Pas dans lequel je crois, ça c'est la conscience moderne. Dans la conscience des prophètes, c'est le contraire. Quand je dis, par exemple, quand je vois un prophète, je vais rendre visite à un prophète, je dis « monsieur le prophète, je voudrais que tu demandes quelque chose à ton Dieu, à l'Éternel, ton Dieu, je ne dis pas « mon Dieu ». C'est une forme, au contraire, c'est une manière d'honorer le prophète. De dire, tu es celui auquel le Dieu s'est révélé, donc il est ton Dieu. À moi, il ne s'est pas révélé, donc il n'est pas mon Dieu. Vous avez compris? C'est comme ça que c'est compris dans l'époque biblique. Donc, Shema Israël Hashem Elohenu, celui qui s'est révélé à nous, mais qui ne s'est pas encore révélé à l'ensemble de l'humanité. Un jour, il sera révélé pour tout le monde. Oui.
Pourtant, à la sortie d'Égypte, Dieu s'est révélé au monde.
Il s'est révélé à l'Égypte, c'est vrai.
Mais l'Égypte, ouais,
mais tu as raison, mais ça a liquidé l'Égypte. C'est-à-dire la révélation a été très forte, elle a brûlé. C'est dangereux une révélation.
Mais quand c'est arrivé en Israël, il y a des peuples qui ont dit, on a vu ce que vous avez fait en Égypte.
Oui.
Votre Dieu, on a vu que votre
Dieu. Ah, oui.
C'est-à-dire qu'ils avaient une reconnaissance de ce que Dieu était là.
Mais... Oui, bien sûr. Il y a eu un moment où ça s'est passé.
C'est pas que notre Dieu, c'est leur Dieu aussi.
Il y a un moment où ça s'est passé. Non, écrit. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas, Rahav, la prostituée? Elle dit aux explorateurs. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu du monde entier. C'est comme ça qu'elle dit. Hashem Elohechem, ou Elohim Bashamayim Valaris Pitar. C'est-à-dire, ça passe par du particulier et ça arrive à l'universel. Donc, pour le Elohe, nous, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mais on n'a fait que ouvrir le débat. On ne peut pas le continuer maintenant parce que c'est le moment des infos. Shalom.